présentons dans la série L'écran radiophonique. Un scénario original de Julien Jean-Pierre. La deuxième époque de Violence et Crépuscule. Imami. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.
Réussi à activer des nerfs du cerveau. Mais vous ferez attention, ce ne sont que des bouts de quelques millimètres activés par un bombardement de rayons laser et ça ne dure pas indéfiniment. Il faudra faire vite et enregistrer millième de seconde par millième de seconde. Petit Jean lui demande, y a-t-il de la mémoire ? Oui, mais c'est imperceptible. Ce qu'il faut, c'est amplifier ces informations très faibles avant de les passer dans l'ordinateur, comme on le ferait avec une table de mixage. Petit Jean demande, il y a combien de morceaux ? Nous avons réussi à activer 5 infimes parties très petites du cerveau nerveux, du tissu nerveux, et à des endroits très différents. Il faudrait presque un ordinateur par partie. Petit Jean lui dit, c'est impossible, celui-là est unique. Ça n'a pas été facile de remplacer par l'ADN le mica. Et très coûteux. Riquin lui demande, l'ADN a-t-il bien pris ? Oui, très bien, et c'est une surprise. L'ordinateur, il a une énorme, une prodigieuse, une rapidité hors pair. Mais est-ce que cela va suffire pour accepter la mémoire du cerveau ? Monsieur Riquin lui dit, les mémoires plutôt, parce que ce sont des bouts espacés. Souhaitons que ce soit des bouts intéressants. Vous n'avez pas pu savoir ce que pouvait apporter comme information. Riquin lui dit, impossible de le savoir. Le cerveau était en décomposition, une espèce de bouillie verdâtre en grande décomposition. Monsieur Petitjean lui dit, pour la première expérience, on aurait dû le faire avec un cadavre plus récent qui venait même tout juste de mourir. Et même, pourquoi pas, un être vivant. Oui, pourquoi pas avoir fait ne pas le faire avec un être vivant. Riquin lui dit, un être vivant, nous l'aurions tout entier. Et si on voulait des informations, il suffisait de le faire parler. Et puis, ce qui est du choix du cadavre, cela est dû à l'intelligence, au savoir de la personne décédée. Faire ressusciter le cerveau d'un Félicien Pontoise dans notre France actuelle, c'est la relever. Le monde entier nous enviait Pontoise. S'il revenait, le monde entier serait à nos pieds. Monsieur Petitjean lui demande, mais qu'avait cet homme de si extraordinaire ? Il était capable de résoudre tous les problèmes d'une façon définitive. Avec lui, on pouvait installer un régime de 1000 ans et peut-être définitif. D'ailleurs, vous verrez bien par vous-même en découvrant ce qu'il a dans son cerveau. Je vais vous faire parvenir les parties du cerveau sous bonne escorte lundi matin à 9h. Mais faites-y attention, c'est très précieux. Il n'y en a pas de rechange. Et le lendemain, les parties infimes du cerveau, mis chacun dans un bocal réfrigéré, déposé dans un congélateur qui a été mis dans un camion blindé. On a fait arrêter et dévier les circulations tout le long du parcours. Les gendarmes, les CRS, la police, l'armée, tout le long du parcours et dans les environs. On fait rester les gens chez eux, portes closes, magasins aussi. Les hélicoptères surveillent le ciel. Durant le convoi, un tank, des voitures 4x4, des camions de soldats, autour du camion réfrigéré, des soldats en moto, devant le camion, des soldats et des motos. Ferme le convoi, un camion missiles et une troupe de motards. C'est énorme et ceci pour 5 km. Tout un quartier est barricadé. Interdiction aux gens de sortir de chez eux, de circuler, de prendre des photos, films, bande-son, etc. Interdiction aux journalistes d'en parler. Secret défense. On peut dire que M. Félicien Pontoise a une deuxième fois eu des funérailles nationales, et celle-ci même plus grandiose que la première. Le président de la République assiste aussi à ceci, il est dans le convoi, dans un tank blindé.
Encore 2 km.
Une fois arrivé à l'entreprise des ordinateurs futurs Matec, l'entreprise est bourrée de CRS et restera tout le temps que M. Pontoise sera là-bas, si l'on veut. Le congélateur est sorti du camion sous bonne garde et a été déposé à une chambre froide, toujours sous bonne garde. Maintenant, il ne reste plus qu'aux chercheurs à se mettre au travail.
Ils vont prendre des bocaux, les parties infimes, les regarder au microscope et les réactiver au rayon laser. Les parties nerveuses infimes sont mises sur des plaquettes sensibles qui sont reliées à l'ordinateur qui enregistre tout ce qu'elle ressent sur les disques. La moindre millième de réaction est enregistrée. Après, on essaiera de lire, de comprendre l'alphabétisation, la langue de ces informations. Et ceci, en amont, les informations imprimées sur disque à des ordinateurs spécialisés à la recherche du langage, ou plutôt de l'expression. Exemple, ordinateur spécialisé sur l'expression du corps, un autre sur le visuel, un autre sur le langage, intelligence, un autre sur les signes, etc., etc. Puis toutes ces informations seront mises dans un seul disque qui, un autre ordinateur, essayera d'analyser toutes ces informations pour voir ce qu'il y a de commun et de non commun, et un autre pour voir entre les communs et un autre avec les non communs, ce qui unit le tout. Un autre ordinateur mélangera les communs et les non communs pour trouver le langage, la clé qui ouvrira le code de ces cellules nerveuses du cerveau. Et une fois trouvées, ils seront mis dans l'ordinateur ADN qui recevra l'intelligence d'après ce que donne le cerveau et agira, répondra désormais d'après cette intelligence. L'intelligence deviendra le cerveau de l'ordinateur. Comme vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire et ce ne sera pas facile avec quelques bouts de nerfs. À l'association de la maison Vie Meilleure Bio, le directeur de Sainte-Garde a convoqué ses chefs dans son bureau. Ils sont tous assis au bureau, ont tous leur blouse blanche. De Sainte-Garde est assis à son bureau. Il leur dit :
j'ai une mauvaise nouvelle à vous dire. J'ai reçu l'ordre de fermer notre maison. Un grand homme fort lui demande : comment ? Une lettre signée de l'élu lui-même. Et pourquoi ? Parce que l'on jase sur nous. L'on dit que nous faisons des expériences pas très catholiques et même diaboliques. Les gens parlent et cela fait mauvaise impression. Je vous avais bien dit de rester discrète, mais vous avez voulu passer à la vitesse grand V.
Il serait nuisible au groupe Jeune Tout
d'avoir un scandale maintenant, alors qu'ils ont lancé, avec l'aide du gouvernement, le projet Pontoise. Tout le feu journalistique va être porté sur le groupe et une affaire comme la nôtre est dangereuse. Parmi les journalistes, il y a beaucoup de gauchistes qui ne comprennent rien à la science et qui pour eux, nous ne sommes que des sales capitalistes et notre maison est un camp de concentration. Alors, nous fermons. Une femme petite maille lui demande « Qu'allons-nous devenir ?» Il lui répond « Nous sommes tous en congé, mais... » Qui sait, peut-être dans quelques mois, le paquebot va faire sa première croisière et nous serons de l'équipage. Elle lui demande, en congé payé? Bien sûr. Vous savez très bien que l'élu n'abandonne jamais les personnes qui l'ont aidé. Un petit homme à moustache, Chris, lui demande, et les pensionnaires? Ils partiront. Bien entendu, nous gardons leurs biens. Ils ont signé. Il viendra peut-être mieux les éliminer, comme les temples solaires et autres. Nous n'en avons pas le temps. Et puis cela risquerait de braquer les caméras vers nous. Prévenez le reste du personnel. Pas de panique. Il faut faire partir les pensionnaires. Prendre notre matériel et recherche pour y cacher en lieu sûr et revendre les murs. Au travail. Et n'oubliez pas que l'élu est près de nous. Tout doit être fini avant 15 jours. L'opération Pantois a déjà commencé. Et je ne veux pas que les journalistes qui font déjà des enquêtes sur le groupe viennent jusqu'à nous. Nous devons disparaître avant. Au travail. Et les gens sortent tous du bureau. Les gens sortent de la cantine satisfaits. Aujourd'hui, le repas était copieux, de bonne qualité et bien arrosé. On a aussi laissé les gens dormir jusqu'à 7 heures et donné un jour de congé. Il faut le mettre dans de bonnes conditions avant de leur annoncer la nouvelle qu'ils doivent être dans la rue et sans un sou. S'il y a une émeute, les bombes lacrymogènes sont prêtes, et les calmants aussi. Après le repas, on les a réunis dans la salle de réunion, une salle comme une salle de spectacle avec des chaises, une scène, où sur la scène, on a mis une table et des chaises pour les organisations. Les gens intrigués s'assoivent. Pierre Max dit à une grosse femme à côté de lui, « De toute façon, moi je ne reste pas longtemps. Je viens me préparer pour aller à la campagne. » Nos responsables sont assis. Au milieu se trouve de Sainte-Garde. Il se lève et dit, « Chers amis, je vous remercie d'être venus. J'ai une grande nouvelle à vous communiquer. » J'ai reçu une lettre de notre élu qui nous donne l'ordre de fermer le plus vite possible notre chère maison. Et oui, notre élu pense que nous avons très bien travaillé tous ensemble et que maintenant il faut passer à autre chose. Vous allez retourner dans votre vie, amplifié par une force, une endurance que vous avez acquise ici et qui va vous permettre de vous surpasser, de surpasser les autres. Oui, grâce à l'élu, nous nous quittons plus fort pour la vie. Allez mes frères, réjouissons-nous que l'élu soit content de nous et nous donne la liberté, le plus beau cadeau du monde. Chantons pour le remercier. Tout à coup, Pierre Max se lève et dit : Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je reste ici. Vous avez dit qu'on en était là pour toujours. Il y a du louche dans tout ça. Mais non, pas du tout. Vous n'êtes pas membre de l'association, vous pouvez partir de suite si vous voulez. Sûrement pas. J'y suis, j'y reste. Et l'argent ? Vous allez le leur rendre ? Le président lui dit : Non, ils ont signé. Il y a eu des frais d'entretien et nous sommes tous frères. Et qu'est-ce que vous allez faire de cet argent ? Il va nous servir à payer tout des tas de choses, tout ce que nous avons à payer, et le reste sera donné à la fondation de l'élu. Oui, l'élu a besoin de vous, il vous aime, et c'est pour cela qu'il ferme la fondation. C'est pour que vous soyez heureux dans le monde. Pierre Max lui dit : Il y a du louche dans tout ça. Je savais que vous étiez une secte. Mais non, nous ne sommes pas une secte. Nous sommes choisis par l'élu. Nous sommes une religion électique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela veut dire que nous ne sommes pas une secte. Pierre Max se dit : Je savais bien que vous étiez une secte et que vous cherchiez à nous voler. Les gens commencent à parler entre eux, ce qui est la chose la plus dangereuse qui soit. Il ne faut pas qu'une foule parle entre elles et se pose des questions. Le président tape du poing et dit : Allons, mes amis, chantons la joie à notre élu. Pierre Max lui dit : Rendez-nous notre argent. Le président lui dit : On ne vous a rien pris à vous, parce que vous n'avez rien donné et vous ne faites même pas partie de l'association. Pierre Max lui dit : J'en ai marre d'être exclu, tout le monde me rejette. On ne vous rejette pas parce que vous ne faites pas partie de notre groupe. Vous êtes le seul à crier, à respecter, pendant que nous vous avons nourri, logé gratuitement. Vous n'avez même pas aidé à éplucher des pommes de terre, à faire votre lit. Pierre Max lui dit : Je n'ai jamais travaillé et je ne travaillerai pas. Je suis un artiste, moi, et un enfant gâté. J'ai toujours été comme ça, et personne ne me changera. Le président rit et dit : C'est Pierre Max, et nous le connaissons tous. Allez, Pierre Max, assieds-toi. On a assez perdu de temps comme ça. Assieds-toi. Pierre Max lui dit : Je fais ce que je veux. Le président lui dit : Cela suffit. Chantons, mes frères. Le monde meilleur, pour remercier notre élu. Debout et chantons. Des gens se mettent debout. Pierre Max dit : Moi, je ne chante pas. Ce ne sont pas des négros spirituels, c'est de la merde américaine. Et je dis ce que je pense. Le président dit : Musique. Et les gens chantent. Et le président leur dit « Allez, chacun dans vos chambres, à vous préparer pour votre départ. Allez, mes frères, ce n'est qu'un au revoir, mes frères. Allez, mes frères !» Et les gens quittent la salle pour se diriger dans leur cellule. Avant qu'ils n'entrent dans leur cellule, on leur donne des comprimés calmants. Et puis une fois dans leur cellule, pour les empêcher de communiquer ensemble, on verrouille la cellule pour qu'ils ne sortent pas. Puis, une heure plus tard, on vient les chercher. Ils sont tous habillés comme lorsqu'ils sont rentrés. Avant qu'ils ne sortent de la maison, on leur dit de ne dévoiler à personne ce qui s'est passé dans la maison de l'élu. Ils partent à pied, en rang, en silence, jusqu'à la gare. Et arrivés à la gare, on leur fait prendre les trains respectifs en leur disant « Dans sa grande gentillesse, l'élu vous paye le train, le billet de train. On garde vos coordonnées car l'on ne sait jamais si on a besoin de vous. Si l'élu a besoin de vous, nous comptons sur vous. » Et les gens s'en vont.
Pierre Max et la famille Grasil se trouvent dans le même compartiment. Ils sont tristes et se demandent ce qu'ils vont devenir. Sans argent, logement, travail, rien, rien. Ils ont tout perdu. Pierre Max pleure et dit
« Mais qu'est-ce que je vais devenir, moi ? Comme d'habitude, personne même ne m'aide. »
Monsieur Grasil lui dit
« Inscrivez-vous au chômage ? »
« Ah non alors, je n'aime pas ça, il faut faire des tas de papiers, se déplacer, non, 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 qu'on me donne l'argent comme ça. Et puis je ne veux pas travailler, je ne veux pas faire n'importe quoi, je suis un artiste moi, j'ai beaucoup à dire et à faire, je n'ai pas le temps de travailler, je me lève à 11h comme les artistes. »
Monsieur Grasil lui dit
« Vous croyez vraiment que les artistes se lèvent si tard ?»
Pierre Max lui répond
« Les vrais artistes, oui. Mais qu'est-ce que vous faites ?
Je chante à la chorale des négros spirituels. Je fais une émission de radio à l'écoute du monde. Je fais de la figuration dans des films. »
Monsieur Grasil lui dit
« Que ça ?»
Pierre Max lui dit « Oui, je pourrais faire plus, mais je n'ai pas le téléphone et je me lève trop tard. »
Madame Grasil lui dit
« Moi, ce que j'aime bien, c'est lire « Voici ». Pour avoir des nouvelles de mes artistes. »
Pierre Massu dit
« Moi aussi, je serai peut-être à Ici Paris ou Voici. J'ai rencontré Stéphanie de Monaco lorsqu'elle était à Lyon. »
Elle lui fait
« Ah, oui, elle se promenait avec Raymond Barre. Elle est belle, belle, vraiment belle. Et qu'est-ce que vous lui avez fait ?
Rien, j'ai rien pu faire. Il y avait trop de monde. Policier, photographe et tout. »
La fille, Basile, lui dit
« Moi, ce que j'aime bien, c'est DiCaprio. J'ai un cahier où je colle tous ses articles et les photos. Qu'est-ce qu'il est beau et gentil. J'aimerais tant le voir dans une soirée. C'est à cause de lui que je suis entré dans l'association, car l'élu lui ressemble tellement. Et je me demande si ce n'est pas lui. »
Son frère lui dit « T'es complètement taré, ma pauvre fille !» La mère leur dit
« Vous n'allez pas vous disputer alors que nous sommes quasiment à la rue, sans un sou !»
Sa fille lui dit
« T'en fais pas, maman, tu trouveras pour faire des ménages !»
Sa mère lui demande « Et toi ?» Elle lui dit
« Tu sais très bien qu'il n'y a pas de travail !»
Elle regarde son fils
« Tu vois bien qu'il n'y a pas de travail !»
Le mari dit
« Tu sais bien qu'il n'y a pas de travail à mon âge, mais ne t'en fais pas, je jouerai au tiercé avec l'argent que tu vas gagner et nous deviendrons très riches grâce à moi. »
La mère soupire. Elle demande
« En attendant, nous allons vivre où ?»
Son mari lui dit
« Ne t'en fais pas, il y a des maisons SDF Pontois qui sont encore ouvertes, nous irons là-bas. »
La fille lui dit « Au milieu de ces vieux et des poux ? Moi, non. Je veux vivre autrement. Je veux être riche pour rencontrer DiCaprio. »
Son frère lui dit « Si tu veux, je peux te présenter à des copains qui te trouvent très chouette et aimeraient rigoler avec toi. Tu me donneras 20%. » Le père leur dit
« De toute façon, ils ont bientôt fini le paquebot. Et on va bientôt être convoqués pour aller là-bas. Ils auront besoin de nous. À nous la belle vie, l'Amérique. »
La fille lui dit « Je vais peut-être rencontrer DiCaprio sur le navire et il m'aimera. »
Le frère lui dit
« Il t'aimera tant que le navire va chavirer et sombrer dans les flots. »
Elle se hausse les épaules et lui dit
« Pauvre con, tu ne sais pas ce que c'est que l'amour. »
Il lui dit « Si tu crois que je suis pissot. » Elle lui dit
« Ce n'est pas ça. »
Il lui dit
« Rappelle-toi, pour la première fois, je l'ai faite à 12 ans, avec un âne. »
Sa sœur lui dit
« La pauvre bête !»
Le frère lui dit
« Non, il semblait adorer ça. Toi, si tu es capable de faire jouir mes copains comme je l'ai fait d'une façon aussi forte, ta fortune est faite. »
Elle lui dit « Ça dépend du prix. »
Et si je veux ?
Le frère dit
« Papa, elle ne veut pas aider la famille.
Le père lui dit, elle fera ce qu'on lui dit. La fille pleure. La mère lui dit, ne pleure pas mon chéri. Ton père a raison. Moi je vais tout de suite chercher du travail. Le trajet est long. Il fait chaud. Les arrêts fréquents. Et en rose campagne. C'est un voyage très pénible. La fille demande, maman, j'ai faim. La mère lui dit, nous n'avons rien. Nous n'avons pas d'argent. Je sais que c'est dur. Allons, nous allons, pour nous donner du courage, chanter un monde meilleur. Pierre Mach lui dit, moi je ne chante pas cette merde commerciale. Je ne chante que des gros spirituels. Et la famille se met à chanter. Enfin, ils arrivent à Paris en pleine nuit, gare de Lyon. La gare est pleine de monde, les gens avec des valises qu'ils portent, ils rentrent, ils sortent, les gens se savent plus ce qu'il faut faire, il y a tellement de tueries en ville. Avant de descendre, Pierre Max leur dit, « Bon, moi je reste, je rentre à Lyon, j'ai mon émission à faire. » La femme lui demande, « Mais qu'allez-vous faire ?» Il lui répond, « Je vais vivre au jour le jour. Je me fais plus de soucis. C'est fini tout ça. Oh, on verra. Ah là là là, c'est la faute aux autres. Il faudra bien que l'on m'aide. » Elle lui demande, « Et si on ne vous aide pas ?» Il lui dit, « Nous verrons bien tout ça. Et puis, je vis au jour le jour. C'est comme ça. Ce qui m'énerve, c'est que personne ne m'aide. On me laisse toujours tomber. » La femme lui dit, « Allons, courage !» Et la famille descend du compartiment. Thank you.
Une fois sorti de la gare, la mère demande « Qu'est-ce qu'on fait ?»
Le frère dit « J'aimerais c'est la flanquer à Pigalle, comme ça on aura un peu de fric. Tu viens ?»
La fille dit « Si tu veux, mais ça ne me dit rien. »
Le frère lui dit « Feignante, tu ne veux même pas aider ta famille. »
Elle lui dit « Et toi alors ?»
Il haut ses épaules et lui dit « Moi c'est pas pareil, je suis malade et je suis au chômage. »
Elle lui dit « Moi aussi. »
Il lui dit « Toi c'est de la feignantise. »
« On te propose un travail aussitôt débarqué à Paris. Tu te rends compte de la chance que tu as? Tu n'as même pas à faire la queue à la NPO.
Il y a des tas de gens qui aimeraient être à ta place. »
« Et tu fais la fine bouche, feignante. »
Elle lui dit « Et toi ?»
Il lui dit « Moi, je ne suis pas feignant parce que l'on m'a rien proposé. Je ne peux pas être feignant. Tandis que toi, hein maman ?»
C'est vrai, la mère lui dit. Ton frère a raison. Lorsqu'on propose un travail, on ne doit pas faire la fine bouche. Regarde-moi, je prends le premier travail qu'on me donne.
Le père la regarde et lui dit, salope, tu veux faire la putain, toi?
Elle lui dit, j'ai pas dit ça.
Et puis, pourquoi est-ce que tu te mets dans un tel état? Tu veux bien que ta fille le fasse?
Il lui dit, c'est pas la même chose. Aux clients de la bonne qualité. Avec ça, il ne sera pas volé. Elle est fraîche et bien bâtie. Tandis que pour toi, le client se sentira floppé et demandera des comptes. Regarde-toi dans la glace, ma pauvre vieille. De quoi j'aurais l'air de fournir ce produit-là?
Le fils lui dit, il a raison, maman. Il y a un moment où il faut passer l'éponge.
La mère Audrey lui dit, mais je ne l'ai jamais fait.
Le père lui dit,
eh bien alors, de quoi tu es jalouse?
La fille dit, cela suffit. Je ne veux pas, et hop, je me taille.
Le frère lui dit, pas question que tu amènes du fric à un autre. La famille, c'est sacré.
La mère dit, bien alors, qu'est-ce qu'on fait?
Le fils lui dit, on va à Pigalle.
Et la famille le suit.
Pendant ce temps, à la maison, on prépare le déménagement. Les corps mutilés ou complets sont brûlés. Les fœtus, bêtes, chimères aussi. L'on détruit les plantations. Il ne doit rien rester des expériences. L'on met dans les camions les outils de laboratoire, les meubles, les ordinateurs, les dossiers, où s'y ont marqué toutes les expériences que l'on a faites. Le tout sera livré et caché dans une caverne en dessous d'une montagne des Alpes. La grotte a été aménagée, isolée du froid, climatisée, les murs renforcés. Il y a des pièces fermées comme des coffres-forts, des grilles de partout. Des gardiens veillent jour et nuit et vivront dans la grotte. Elle est cachée du regard par des rochers et une abondante forêt végétale. Les chauffeurs qui font le déménagement font partie de l'association et les camions étaient fabriqués par le groupe Jeune Tout.
Les membres de l'association vont être rembauchés plus tard en attendant que le paquebot soit fait. Et certains vont avoir des stages pour travailler sur le paquebot. La maison et les terrains ont été vendus avec par un prix assez avantageux pour que ce soit vendu très rapidement. Un paysan du pays l'a acheté et va en faire un gîte rural. Voilà, la chose est finie, tout s'est bien passé, il ne reste plus rien. Quant aux gens de l'association ou à ses membres, ils ne diront rien. Tous occupés et abrutis, trop occupés et abrutis pour parler et même avoir de la haine pour ceux qui les ont dépossédés. Quant à ceux qui ont eu des morts, ils sont trop peinés. Et puis on leur a dit que c'était un accident ou une maladie. L'élu ne peut pas faire de mal, c'est impossible. Quant à l'élu, il faut le prier, l'élu. Quant à l'élu, lui, ne saura jamais rien. Il n'a jamais rien su sur l'existence de cette association. On lui a dit que l'essentiel, il ne faut pas troubler le calme de l'élu. Quoique Galien sent qu'on lui cache bien quelque chose. Il ne peut pas se rendre compte ou imaginer des choses pareilles. Il continue à voir, une fois, deux fois par semaine, Guillaume et à écrire à Philippe. Il passe des soirées à faire l'amour et à parler tout en buvant des jus de fruits, en particulier du jus de tomate. Guillaume lui demande « L'homme va aller jusqu'où avec toutes ses découvertes ?» Galien lui dit « Plus on découvre, plus on a à découvrir. Et puis quelquefois, ce qu'on croyait vrai, on en doute. C'est comme le trou noir. Maintenant, on doute de cette soi-disant vérité. » Guillaume lui dit « Alors l'homme cherchera constamment ? Il n'aboutira jamais ?» Galien lui dit « À quoi ?» À l'absolu, au bonheur, à l'immortalité, à Dieu, aux guérisons de toutes les maladies, à la création d'un paradis sur la terre pour les végétaux, les animaux, à des supermachines pour se déplacer, produire, voir des images. Quel est le but? Il n'y a peut-être pas de but dans la science. En tout cas, de but suprême, mais plusieurs buts, Guillaume lui dit. Tu as raison, mais le mode occidental, pour être le plus fort et montrer sa puissance, il se sert de la science, Galien lui dit. C'est sa dernière carte avant sa fin. Comment? Le monde occidental, est en chute libre et personne ne peut arrêter cette chute, même les occidentaux qui participent même à sa chute en dénigrant tout ce qui est occidental. Guillaume lui dit, mais les scientifiques alors? Galien lui dit, les scientifiques sont les derniers, le dernier souffle de notre civilisation. Ils le sont et essayent de nous sauver par la recherche. Malheureusement, ces efforts vont être négligés par la médiocrité. Les nations, par humanité, vont ouvrir grandes leurs portes de leur cité et se laisser envahir, consentantes, par d'autres cultures. On va retourner dans un Moyen-Âge plein de cris, de sacrifices, de chants, de dieux de toutes sortes, avec leur intolérance et leur folie. Guillaume lui dit, le monde retourne en arrière, oui, alors si nous n'avons plus de Pontois pour nous aider. Il y aura quelques vieux qui auront encore leur restera encore de la culture ancienne par des disques, des films. Ils vivront repliés sur eux-mêmes avec leur culture. Ils auront Mozart, Rimbaud, Balzac, Greene, Duras, Dumas. Regarderont des vieux films et prieront un dieu sans autel. Guillaume lui dit, on dira que ces vieux sont un peu fous et hors du temps. Galien lui dit, oui, et je serai peut-être un de ces vieux. Galien lui dit, nous le serons peut-être. Galien lui dit, mais pas encore, nous avons encore du temps. Les choses vont pas aussi vite que ça. Nous avons encore le temps. Guillaume lui demande, est-ce que tu crois que les amours comme nous seront permis? Galien lui dit, sûrement pas. Dans toutes les civilisations barbares, c'est inadmissible et interdit. Mais buvons et n'y pensons plus. De toute façon, nous n'y pouvons rien. Et ils boivent. Et après, font ce qu'ils aiment faire. Après-midi, Galien reçoit un appel téléphonique à son bureau. La secrétaire lui dit, « C'est un appel de mademoiselle Fleur de Hautebord, vous prenez monsieur ? Réfléchit une seconde et lui dit :
Oui, je prends.
Allô ?
Bonjour, c'est Fleur. Je ne vous dérange pas ?
Non, pas du tout.
Je vous téléphone, c'est pour vous inviter à passer la soirée chez moi pour un dîner d'adieu.
Oui, je retourne à Lyon.
Est-ce que vous acceptez de venir demain soir à 20h30 ?
Il lui dit :
Oui, bien sûr, je vous remercie.
Mais je suis surpris que vous partiez.
Elle lui dit : Je vous expliquerai, mon frère, enfin Didier, est déjà parti. Il était très fatigué et voulait retourner à la maison. Il m'a fait promettre que je vienne le rejoindre le plus vite possible.
Il lui dit : Je comprends. Je comprends pourquoi vous partez.
Elle lui dit : C'est pas tout à fait à cause de ça. C'est un peu plus compliqué, mais je vous expliquerai. Alors à demain, 20h30.
Oui, à demain.
Et il raccroche.
Il se demande ce qu'elle lui veut.
Le soir, en rentrant chez lui, il va chez Guillaume.
Entre.
Et lui dit qu'il est invité chez Fleur.
Guillaume le mène au salon.
Entre.
Assieds-toi.
Et lui demande : Tu vas bien ?
Oui, je suis venu te dire, c'est que Fleur m'a téléphoné et m'a invité demain soir pour dîner, parce qu'elle part de Lyon.
J'ai dit oui.
Guillaume lui dit :
Qu'est-ce qu'elle veut encore ? Son frère ne lui suffit pas ?
Elle lui dit :
Ce n'est pas son frère. Elle n'est pas Hautebord.
Comment ça ?